Je vote pour la science avec Isabelle Bourgogne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous envoler aujourd'hui, ou presque. Nous allons vous parler de la mission Artemis 2 à destination de la Lune. Ce vol sera le second, mais le premier à être habité, de 3 vols destinés à repartir à la conquête de la Lune. Avec la participation d'un astronaute canadien, Jeremy Hansen, cette première étape durera 10 jours et survolera la Lune sans se poser. Cela permettra tout de même de faire de la science dans l'espace, comme vérifier le bon fonctionnement des instruments de vol et de guidage, mais surtout d'inédites observations de la Lune. Sommes-nous prêts pour la conquête de la Lune? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission Artemis 2 avec 2 spécialistes. Je suis en compagnie de Marie-Michèle Limoges, la directrice scientifique de l'éducation et des collections du Cosmodôme de Laval, qui est un musée consacré aux sciences de l'espace. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Mathieu Caron, le directeur du Bureau des astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour.
Bonjour.
Donc la prochaine fenêtre de lancement de la mission Artemis 2 s'approche et donc le retour des humains sur la Lune aussi, de manière plus durable. Est-ce que cela présage un premier saut vers Mars, un tremplin à 400 000 km? Nous allons voir ça. Madame Limoges, je vais commencer avec vous. Rappelez-nous peut-être ce qu'est la mission Artemis 2.
Bon, la mission Artemis 2, c'est une mission... Moi, je l'explique là, comme une mission test, un peu comme, vous savez, quand un avion va voler pour la première fois avec un pilote d'essai, c'est le premier vol habité de la fusée SLS avec la capsule Orion. C'est vraiment un test pour voir si on est prêt à aller marcher sur la Lune. Donc, on n'ira pas sur la Lune, mais on va aller vers la Lune avec un astronaute canadien qui va être le premier non-américain à participer à une mission d'exploration lunaire. Donc ça, c'est extraordinaire en soi. Ils vont s'approcher de la Lune, ils vont tourner autour de la Lune, tester le vaisseau. Bon, là, on va en parler peut-être plus en détail des objectifs, mais ils vont pouvoir voir la Lune de près, voir la face cachée de la Lune. Là. Ça fait longtemps qu'il y a des humains qui n'ont pas regardé avec leurs yeux la face cachée de la Lune et revenir. Et avec toutes les données qu'on va ramasser, mais là, on va pouvoir savoir si Artemis 3, qui est la mission prévue pour un alunissage avec des humains, va pouvoir se faire.
Est-ce que ça vous excite plus que les JO de Milano Cortina?
Oui, c'est sûr, les Jeux olympiques, c'est incroyable. Puis il y a des beaux parallèles à faire hein, avec les Jeux olympiques. C'est juste que... aller sur la Lune, c'est plus rare. Ça fait 53 ans qu'on n'est pas allé. Et puis, un astronaute, un athlète olympique, c'est tous les deux des types d'humains exceptionnels qui travaillent tellement fort et qui ont la chance de faire des choses que très peu d'humains font.
Mais
j'avoue que j'ai pas vécu les premiers alunissages, alors j'attends ceux-là avec impatience et depuis très longtemps.
Monsieur Caron, est-ce que ça vous excite autant donc les JO?
Absolument. Absolument, si c'est plus. Alors, on a la chance d'avoir des Jeux olympiques à tous les 4 ans, mais comme Marie-Michèle l'a indiqué, ça fait 53 ans depuis la dernière mission où des êtres humains se sont approchés de la Lune. Nous sommes bien excités à l'Agence spatiale canadienne, mais également lors de l'annonce de l'équipage d'Artemis 2 l'an dernier à Houston, l'an dernier c'était en 2023. Je peux vous dire que cette frénésie-là n'était pas juste canadienne, mais était également avec nos partenaires américains.
Rappelez-nous, ce n'est pas cette année qu'on foulera le sol lunaire, hein?
Non, c'est bien ça. Comme la mission Artemis 2 vise justement à on va dire, frôler la Lune, on reste quand même assez loin, mais à vérifier les systèmes de la capsule Orion et justement avec des êtres humains à bord. On a eu la chance en 2022 d'envoyer une capsule similaire, mais personne n'était à son bord alors justement pour faire un premier vol d'essai. Là, ça va être la première fois qu'on va avoir des êtres humains à son bord qui vont permettre de voir les systèmes de survie, les systèmes environnementaux, les différents contrôles, les différents écrans, pour s'assurer justement que la fusée SLS et la capsule Orion peuvent être justement opérées par des humains et justement les soutenir pour une mission de 10 jours. Et ça, ça va jeter les bases pour la mission où on va retourner sur le sol lunaire.
Oui. Présentez-nous peut-être justement ces humains extraordinaires, les astronautes qui s'envoleront, peut-être avec leur formation, leur rôle lors de la mission. Qui sont ces quatre chanceux?
Donc, il y a quatre astronautes qui vont prendre place à bord de la capsule Orion, qui est à peu près de l'espace qu'on retrouverait dans une caravane, un peu une fourgonnette.
Petit, hein?
Alors, j'ai eu l'occasion d'aller dans un simulateur à Houston où on peut prendre place, et je peux vous dire que vraiment, c'est une équipe qui doit être assez serrée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, il y a le commandant, Reed Wiseman, qui va prendre place sur le siège avant gauche. Il va être épaulé par le pilote, Victor Glover. Et à l'arrière, il va y avoir deux spécialistes des missions, Christina Cook et l'astronaute canadien Jeremy Hansen, qui justement vont prendre place à bord d'Orion et vont se partager les tâches tout au long de la mission. Ils ont des rôles très, très complémentaires et souvent, ben, justement, ils vont se partager les différentes étapes justement pour les tests de vérification qui vont avoir lieu tout au long de la mission.
Oui, c'est le Canadien Jeremy Hansen. C'est quoi sa formation et son rôle précis?
Bon. Le colonel Hansen, il est un membre actif de l'armée de l'air canadienne.
Ouais.
Donc, à la base, c'est un pilote. Il s'est joint à l'Agence spatiale canadienne en 2009 et il a été à Houston depuis ce moment-là et il a finalement eu l'occasion de s'entraîner, de participer à une multitude de missions spatiales, principalement destinées à la Station spatiale internationale. Et lors de la mission, ben, justement, il va, comme spécialiste de mission, il va prêter main forte à toute l'équipe. Il y a pas une tâche spécifique que c'est seulement Jérémy qui peut faire, mais
d'accord,
tout au long de la mission, ils vont se partager justement les différents tests. Dès leur arrivée en orbite, ben, ils vont commencer la configuration, reconfigurer l'intérieur de la capsule, justement pour ranger les bancs, se donner plus d'espace, déployer, je parle des systèmes environnementaux de survie, plutôt la toilette, qui ça peut faire sourire les gens, mais
ben oui,
pour une mission de 10 jours, c'est probablement une des composantes les plus importantes qui n'a jamais encore été testée.
Entendu. Pourquoi la mission est importante pour l'exploration lunaire, Madame Limoges?
Oui, excellente question. Bon, on l'a dit en préambule, là, ça va servir de test pour savoir si on est prêt à lunir. Le but des missions Artemis, c'est l'exploration durable de la Lune. On ne veut pas juste y aller quelques fois, puis plus y aller pendant 53 ans. Donc, il y a tout plein de technologies et de sciences à développer et de... Donc, par exemple, en survolant la Lune, et là, peut-être que M. Caron pourra m'aider à préciser, mais en survolant la Lune, ils vont avoir au moins 3 belles heures à ne faire que de l'observation de la Lune, l'étude de la géologie. Je pense qu'il y a des choses que l'œil humain aussi peut aider à détecter, qui pourront aider aussi à choisir les endroits où on peut aluner. Je sais qu'en ce moment, on est en train d'étudier, caractériser là, 5 ou 6 sites d'alunissage potentiel au pôle sud. Donc, on se prépare à ça aussi. Et il y a tout, ben, M. Caron a mis la table beaucoup pour parler justement de tester le vaisseau. Est-ce qu'il peut accueillir des humains, les systèmes de vie? L'atterrissage aussi. Donc, on doit ramener les astronautes en sécurité. Donc, c'est vraiment, ça va mettre la table pour les futures missions. C'est une mission qui est extrêmement importante. Et puis, ben là, on a parlé de la participation du Canada, mais il y a le premier astronaute canadien qui part, puis... Bien, on en parle peut-être pas assez, mais j'allais dire backup, c'est un anglicisme, mais en équipage de réserve de Jeremy Hansen, il y a Jenny Gibbons, donc, qui est une astronaute canadienne aussi. Donc, c'est
qui est une femme.
Qui est une femme, et c'est 100% sûr que le Canada participe à ça. Et c'est extrêmement important. Puis, il y a aussi tout l'aspect de collaboration internationale aussi, des missions Artemis. Oui, là, on parle beaucoup du Canada à cause de Jeremy Hansen, mais dans la fusée Orion, c'est pas la fusée Céleste, ce n'est pas seulement une fusée américaine. Le module de service est construit par l'Agence spatiale européenne, par exemple. Puis il y a plusieurs nations comme ça qui contribuent aux missions Artemis. Puis ça va faire, je pense, que Ben ça peut aider à la durabilité de l'exploration de la Lune et tout ce qui est aussi toute la science qui va pouvoir se faire au sol là, notamment sur bon là on pense qu'il y a de la glace d'eau au pôle sud, on est bon, il faut, on est comme sûr qu'il y en a, mais elle est cachée dans des grottes. Mais cette glace d'eau-là, elle est essentielle pour l'exploration habitée de la Lune. On en a besoin. Ça va faire de l'eau pour boire. On peut la diviser pour en faire de l'oxygène à respirer. Donc, ça peut-être même du carburant. Donc, c'est ça, c'est mettre la table pour toutes ces étapes-là cruciales pour l'exploration.
Monsieur Caron, pourquoi c'est important? Je sais que tous les deux, vous surveillez en ce moment la fenêtre aussi. Pourquoi c'est important pour, justement, l'exploration lunaire?
Et c'est que là, on retourne de façon plus durable. Okay. Le but est vraiment pas simplement aller faire un aller-retour et fouler le sol et de revenir. C'est que on veut établir une présence plus durable. Par exemple, le Canada participe à la passerelle Gateway.
Oui.
Et grâce au Gateway, ben nous, notre contribution, c'est un bras robotique qui va servir à sa construction et son entretien. Et c'est grâce à cette contribution que nous avons des astronautes canadiens qui vont participer. Bon, là, on a Jeremy Hansen sur Artemis 2. Mm-hmm. Et il va avoir une autre mission plus tard, dans quelques années, sur cette même station-là, Gateway. Sur le sol lunaire, il va également avoir la robotique canadienne éventuellement. Donc, le but, c'est d'établir une base plus durable, justement, qui va nous servir pour nous préparer pour aller encore plus loin possiblement.
Je lisais un tremplin tout à l'heure, c'est ça, c'est un fameux tremplin.
Exactement, on a beaucoup d'expérience maintenant ce qu'on appelle en basse orbite terrestre avec la Station spatiale internationale. On vient de célébrer les 25 années d'occupation continue de la Station spatiale internationale, mais c'est encore très limité, c'est tout près. C'est 400 km d'altitude à peu près. Les astronautes peuvent prendre un téléphone et même appeler au sol. Ça arrive parfois. Mais on peut voir que des fois, quand il arrive des défis, comme par exemple s'il y a une urgence médicale, ben, ils peuvent revenir rapidement au sol. Tandis que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, ben, les enjeux deviennent plus grands et revenir n'est pas une option. Donc, on doit justement développer la capacité de pouvoir se débrouiller loin de la Terre. Et l'astronaute David Saint-Jacques dit, c'est un petit peu quand on utilise l'exemple de partir en camping, ben, avant de faire une randonnée très, très loin et très profond dans la nature, ben, on veut tester en premier lieu, dans sa cour un petit peu, s'assurer qu'on peut monter sa tente et de pouvoir se débrouiller. Puis après ça, ben, avant de se commettre à une mission, une randonnée de plusieurs semaines, ben on veut peut-être faire une fin de semaine dans le parc des Laurentides.
Je vois que Mme Limoges a les yeux qui brillent quand vous parlez. Mme Limoges, quelles sont les différences et les ressemblances avec le programme Apollo? Parce qu'on l'a parlé, c'était il y a 50 ans de ça, là, les premiers pas.
Il y en a beaucoup. Donc, on va en nommer quelques-unes.
Oui, oui.
Premièrement, quelques différences. Le programme Apollo, c'était le programme où on est allé sur la Lune, notamment la première fois avec Apollo 11. Donc, ça fait très longtemps. On avait développé la fusée Saturne V à l'époque pour cette raison. On me pose souvent la question, est-ce que c'est une nouvelle fusée complètement qu'on a construite? Oui, ça n'a rien à voir avec la fusée Saturne V.
On ne fait pas du recyclage de vieilles fusées.
C'est ça. Pour les plus jeunes là, d'entre nous, dans les années 60, les ordinateurs, ça commençait.
C'est
donc,
vrai.
Tous les calcul, là, il y en avait beaucoup qui étaient faits à la main, c'était pas une fusée. Bon, c'était une excellente fusée, mais là, avec SLS, on est vraiment avec autre chose. À l'époque, par exemple, on avait déjà la contribution du Canada. Donc, il y a eu des timbres, là, il y a quelques années, canadiens qui ont commémoré ce fait-là, mais vous savez, les pattes du train d'atterrissage du module lunaire ont été construites au Canada, en fait, au Québec, à Longueuil, par la compagnie Roudeftech. Donc, c'est vraiment le train...
Je me sens plus fière aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Donc, il y a très, très longtemps, dans le fond, que le Canada collabore à l'exploration de la Lune, et ces pattes-là, tout en aluminium, ont été envoyées à la NASA, puis c'est ça qui touchait. Bon, c'est pas vraiment ça qui touchait au sol en premier parce qu'il y a des petits capteurs, des senseurs de proximité, mais sinon, toutes les pattes étaient canadiennes. Il y avait aussi un médecin, et là, j'essaie de retrouver son nom, qui s'appelait William Carpenter, qui était un médecin de vol pour les missions Gemini et Apollo. Il était canadien.
Okay.
Donc, ça fait très longtemps là, qu'on collabore, puis quelques différences. La fusée, là, peut-être, M. Caron, vous pourrez compléter,
oui, il y en a tellement. Monsieur Caron, il y a 50 ans, donc c'était un programme entre 1961 et 72. Ah, c'est sûr que ça a été Apollo suivi après, en 1989, d'un programme spatial ambitieux sur 30 ans, le Space Exploration Initiative. On se souvient, ça c'est le père de George W. Bush, le père. Donc, puis le fils avait repris en 2004 avec Vision for Space Exploration. Donc, mais Apollo, il y a 50 ans, concrètement, Monsieur Caron, les ressemblances, les différences avec ce qu'on vit actuellement?
Ah ben les ressemblances, je veux dire, si on regarde la fusée, bon, on voit que c'est un petit peu la même approche. Après avoir passé plusieurs décennies avec la navette spatiale, que c'est un véhicule réutilisable, on retourne avec le concept d'une capsule au-dessus de la fusée qui n'est pas réutilisable. Cependant, ça apporte une certaine mesure de sécurité où on avait pu voir avec malheureusement la navette Columbia que quand on est à côté, qu'il y a des morceaux qui se détachent de la fusée, ben, ça peut endommager le véhicule. Donc, on a retourné à ce concept-là. Cependant, si on regarde au milieu la force de la fusée, si on regarde la technologie qui est utilisée, ben, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus sécuritaire que c'était ce dont on disposait lors des missions Apollo. Donc, et ça continue. C'est un effort continu, comme je regarde présentement. Un des objectifs de la mission Artemis 2, ben, ça va être de voir, avant de s'éloigner trop de la Terre, ils vont se séparer de l'étage supérieur de la fusée, du propulseur supérieur. Ils vont simuler des approches comme s'ils voulaient faire un arrimage avec ce module-là. Ils ne feront pas, ils vont se limiter à une proximité maximale de 10 mètres. Mais c'est parce que ça va être important pour Artemis 3, parce que la capsule Orion ne pourra pas allunir elle-même. Elle va devoir s'arrimer à un module d'atterrissage qui va être lancé séparément. Et ça, c'est un peu la même approche qui avait été utilisée pour Apollo, où le module d'atterrissage se séparait de la capsule Apollo pour atterrir sur la Lune et revenir. Donc, que les astronautes puissent être capables de procéder à ces alignements-là qui demandent une très grande précision et un arrimage, bien ça, c'est une des choses qui va être testée lors d'Artemis 2 quelques heures après le décollage seulement.
Entendu. Madame Limoges, il y a eu une simulation de lancement. C'est quoi et ça sert à quoi et c'est pourquoi?
Bon, ça sert à savoir si la fusée est prête à décoller. La fusée, elle est assemblée dans un hangar.
Oui.
Donc là, quand on est prêt, tout ça est assemblé. Là, on sort la fusée. C'est ce qu'on a fait là, dans les dernières semaines. Donc, c'était très, très long. Là, le véhicule qui transporte la fusée
se transporte
très, 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 oui. Ouais, très, très tranquillement. Là, la fusée est sur son pas de tir. Et là, ils vont faire un test de compte à rebours. La fusée, sans les astronautes, la fusée, donc, à vide là, d'humain. Mais on va remplir la fusée de carburant, puis on va passer au travers toutes les étapes du décollage. Puis juste avant le décollage, bien là, on décolle pas. Les astronautes sont pas oui. dedans. Puis comme ça permet vraiment de vérifier les systèmes, le remplissage de la fusée.
Ouais, ça s'est pas bien passé?
Bien, il y a eu deux, les deux pépins principaux dont on nous a parlé, c'était dont une fuite au niveau de l'hydrogène. Donc, ça peut fuir un peu, mais là, on était un petit peu au-dessus là, de ce qu'on était confortable, parce que là, l'hydrogène, c'est une extrêmement petite molécule, donc là, ça sort facilement, ça fuit où ça peut. Et il y a aussi, bon, c'est l'occasion à ce moment-là, quand la fusée sur son pas de tir, que l'équipe qui s'occupe de bien installer les astronautes dans la capsule et de refermer le tout puisse se pratiquer sans les astronautes.
Oui.
Et là, ben, au niveau là, de, je pense, du verrouillage, de la pressurisation là, de la capsule aussi, on aurait besoin d'un autre tour de roue. Là. On a besoin d'un succès du test comme ça, du compte à rebours pour pouvoir lancer la fusée.
Lancer le go, finalement. Donc, M. Caron, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, le rôle du Canada dans cette mission et pourquoi on a obtenu une place. Là, on a un astronaute sur ce vol. Donc, c'était qu'on fournira à la Station spatiale lunaire Gateway un système robotisé hautement autonome. C'est un bras robotisé un peu comme celui de la Station internationale, si je comprends bien. Expliquez-nous ce que c'est que ce bras.
Oui, c'est bien ça. Donc, le Canadarm 3, on n'est pas toujours très original dans nos noms. Mais,
après le 2.
Donc, oui. C'est ça. Il est basé comme justement sur le succès du Canadarm 2. Donc, sur la station spatiale, la contribution canadienne, on n'a pas un module canadien, mais on a un système robotique canadien qui est composé du Canadarm 2 et de DEX. Et ce système robotique-là, si je peux prendre quelques secondes pour l'expliquer sur la station spatiale, mais sans lui, il aurait été tout simplement impossible de construire la station spatiale internationale. Et ça veut dire que pendant de 2001 à 2011, lors de toutes les visites de la navette, ben, ce système robotique-là était canadien, a été critique justement pour l'assemblage des morceaux de la station spatiale. Et depuis ce temps-là, Dextre est utilisé à toutes les semaines avec le Canadarm 2 justement pour en assurer de l'entretien.
Oui, je veux que vous rappeliez que Dextre, c'est le petit robot. C'est quelque chose de fascinant à aller voir. C'est un petit robot avec des mains, des senseurs aussi. Donc,
oui, c'est bien ça. C'est un petit robot relativement parlant parce que le Canadarm 2 fait 17 mètres de longueur et les bras de Dextre.
Oui, c'est
bras qui font 3 mètres chacun. Mais ça démontrait à la communauté internationale l'utilité de la robotique et l'expertise canadienne. Alors, quand est venu le temps de préparer la prochaine station, ben là, tout le monde se sont tournés vers le Canada et disait, hey, vous êtes bon en robotique, seriez-vous prêt à contribuer justement à ce manipulateur robotique? Parce qu'on a vu, on a démontré que parfois, on s'en sert pour des opérations qu'on n'avait même pas envisagées au niveau de la conception de la station. Donc, c'est une versatilité qui nous a très, très bien servi. Et c'est grâce à ça que, là, maintenant, on peut, comme Mme Limoges l'a remarqué, qu'on a le premier non-américain à s'aventurer autour de la Lune. Ben, ça va être un Canadien.
Oui. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas été au Cosmodôme, Mme Limoges. Qu'est-ce que vous préparez pour cet événement-là? Est-ce que vous avez autour de la Lune, autour d'Artemis 2? Qu'est-ce que vous montrez un petit peu au public? Qu'est-ce que le public peut aller suivre? Est-ce que le public peut aller suivre le lancement, par exemple?
Bon, plusieurs volets à cette question. Premièrement, qu'est-ce qu'on prépare? Depuis un an, la compagnie Roudeftech nous permet d'exposer. C'est la seule patte qui reste du module lunaire au Canada. Super. Donc, on a cet objet-là qui nous permet de partir la discussion sur l'exploration de la Lune avec les gens. Sinon, dans notre programmation pour les camps de jour, là, on est vraiment à mettre les derniers points sur les i pour la programmation du camp de jour de la relâche.
Parce qu'il y a la relâche au mois de mars aussi.
Donc. On n'a pas le choix. Là, c'est Jeremy Hansen, c'est biographie, sa mission, tout ça. On va aussi avoir des télés qui vont diffuser toutes les belles vidéos de vlog là, que Jeremy Hansen a fait. On va diffuser ça pendant la semaine de relâche. C'est notre thème, dans le fond.
Oui.
En parle le plus possible. Et pour savoir si on fait un événement, ben nous, notre cœur de cible, le public, c'est la famille. Donc, si le lancement a lieu en pleine nuit, on sera pas en mesure de le faire. Là, il y a beaucoup de fenêtres de lancement qui sont prévues la nuit. Donc, ça va vraiment dépendre.
Okay. Je vais me le noter sur mon agenda, moi, pour si jamais c'est en journée, finalement, on peut...
On est comme les astronautes, on est sur les qui-vivent, on attend d'avoir la date, puis on se tient prêt. Oui.
Monsieur Caron, parlez-nous un peu du vaisseau Orion et de la vie à bord.
On va prendre des mesures sur les astronautes avant leur départ et après à leur retour. Et on va faire quelques prélèvements, mais ils n'ont pas énormément d'équipement qui vont... tout au cours, on va prendre des prélèvements de salive, justement pour voir un petit peu quels sont les effets de bioanalyse sur les... sur le corps humain. Mm-hmm. Mais en gros, côté science, comme Mme Limoges l'avait fait remarquer, c'est lorsqu'ils vont passer derrière la face cachée de la Lune, ils vont passer plusieurs heures justement à scruter la face cachée de la Lune, puis évidemment, avec des caméras, avec leurs yeux, et justement noter tout ce qu'ils peuvent pour les géologistes qui attendent cette information-là avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Oui. Madame Limoges, Pourquoi on dit que c'est un tremplin pour aller sur Mars? Pourquoi on dit pas simplement on veut retourner sur la Lune et point, et c'est la Lune qui nous adresse? Parce qu'en fait, c'est pas juste la Lune qui nous intéresse dans cette mission, ce que je comprends.
C'est vraiment, si on va regarder là, les pages de la NASA sur le programme Artemis, tout ça, c'est Moon to Mars en gros, oui. Là, les grosses infographies, on voit ça. C'est sûr que ça va être difficile d'aller sur Mars, mais... Monsieur Caron, vous l'avez expliqué quand vous avez parlé de l'analogie pour le camping de David Saint-Jacques, mais exact, tout ce qu'on a appris en orbite basse de la Terre sur la santé des astronautes, les technologies développées, ça nous aide à aller vers la Lune. Mais là, après ça, apprendre à vivre sur la Lune, longtemps, l'environnement hostile, là, vous avez parlé de santé, s'en est, comment on fait pour subsister, là, est-ce qu'on fait pousser des choses, comment on fait pour les radiations, toutes les réponses qu'on va pouvoir gagner vont pouvoir permettre de résoudre les problèmes qui vont permettre de nous emmener vers la planète Mars, parce qu'il y a encore plusieurs défis, dont celui des radiations, dont celui de la distance et de la durée du voyage. Juste le corps en apesanteur, il vieillit à une vitesse accélérée. Puis là, on parle d'un voyage qui va durer au minimum un an et demi, même si le vaisseau va super vite puis qu'on ne reste pas longtemps. Donc, il faut résoudre tout plein de problèmes, puis c'est vraiment une bonne première étape là, de le faire à 4 jours de distance de la Terre.
Lorsqu'on va s'aventurer vers Mars, on doit être certain que nos astronautes vont être capables de travailler sur Mars et d'y revenir. Fait que ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on doit voir. Fait qu'on sait ce qui se passe pour 6 mois, mais on est encore bien loin de plusieurs années dans l'espace. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que on est excité par la mission d'un Canadien qui va s'aventurer autour de la Lune, mais tout ça a été mis en marche il y a des dizaines d'années, plusieurs décennies, au fur et à mesure qu'on investissait dans des programmes sur la navette spatiale, sur la station spatiale, et on n'imagine jamais à quel point ça va nous amener loin de la Terre.
Oui, tout à fait. Jusqu'à Mars, on se le souhaite. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Mathieu Caron, le directeur du Bureau des astronautes, sciences de la vie, médecine spatiale de l'Agence spatiale canadienne, et de Marie-Michèle Limoges, la directrice scientifique de l'éducation et des collections du Cosmodôme de Laval. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie de cette émission Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cet épisode, réécoutez-nous et suivez la page de Je vote pour la science pour ne rien manquer sur le site de Science Presse. Écrivez-nous si vous avez des bonnes idées d'émission ou des commentaires. Passez tous une très très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.